les jours, les experts se donnent rendez-vous dans l'Afterwork.
Et on est de retour tous ensemble dans l'Afterwork et puis il m'a rejoint Olivier. Salut!
Salut Cyrielle, bonjour à toutes et à tous.
De quoi nous allons parler aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui nous allons parler des traditions du Grand Est.
Donc c'est un découpage géographique qui correspond à une fusion de plusieurs régions.
Voilà, alors je l'explique souvent à mes élèves, hein. Ben, c'est la Lorraine bien sûr, mais c'est aussi la Champagne et les Ardennes, ainsi que bien entendu l'Alsace. Et c'est prétexte aujourd'hui à évoquer un certain nombre de traditions culturelles, historiques, notamment dans la cuisine et autour de ce qu'on appelle le monde de la table. Notamment en cette semaine où Monsieur Paul Bocuse, un homme de terroir plutôt, nous a quittés. Voilà, donc c'est à cette occasion qu'un repas pour deux vous sera ainsi offert.
On peut, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de parler uniquement cuisine aujourd'hui, c'est quand même une chronique histoire, donc c'est bien d'évoquer quelques spécificités historiques de notre belle, grande et nouvelle région.
Voilà, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne veux pas vous faire la liste ou la carte des vins ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment évoquer quelques éléments qui font et qui fondent notre patrimoine, notre vivre ensemble. Alors, on a quand même procédé à une petite sélection, on va évoquer les vins de Moselle de manière historique, avec quelques crus et mévogiens qui les accompagnent, et enfin ces fameuses Weinstube alsaciennes.
Alors on commence bien sûr avec les vins de Moselle.
Voilà, hein, Mosellan oblige. Donc ces vins de Moselle, le Mosellan d'origine que je suis les a découverts non pas par le côté gustatif, hein, je tiens à le préciser, mais bien par la lecture. Et figurez-vous que les vins de Moselle, eh bien, ils sont extrêmement appréciés et prisés au XIXe siècle. Alors, ce sont des vins qui s'illustrent notamment dans la période allemande, entre, je rappelle que la Moselle est allemande entre 1871 et 1914, et ces vins sont fortement répandus dans toute l'Allemagne. On va trouver ainsi des témoignages, notamment chez les écrivains bien célèbres Erckmann et Chatrian. Je rappelle que ce sont deux écrivains, hein, qui ont écrit ensemble à quatre mains, si j'ose dire. Et on retrouve une évocation des vins de Moselle, enfin la première évocation que j'ai trouvée et que j'ai découvert, c'était dans leur ouvrage qui s'intitule « L'histoire d'un conscrit de 1813 », où on évoque une qualité extrêmement forte de ces vins.
Et donc tu as ramené avec toi un extrait de ce bouquin.
Voilà, je vais vous lire, si vous le voulez bien, un petit extrait de cet ouvrage, parce que ça se prête bien à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, si je le lis, hein. « Ceux qui n'ont pas vu la gloire de l'empereur Napoléon dans les années 1810-1812 ne sauront jamais à quel degré de puissance peut monter un homme. Quand il traversait la Champagne, la Lorraine ou l'Alsace, les gens, au milieu de la moisson ou des vendanges, abandonnaient tout pour courir à sa rencontre. On aurait cru que c'était Dieu. »
Ah, pas mal!
Mais oui, on aurait cru que c'était Dieu qu'il faisait respirer le monde et que si par malheur il mourait, tout serait fini. Voilà, vous remarquerez déjà cette allusion, hein, nette et franche à ces terroirs de Champagne, de Lorraine et d'Alsace, bien sûr, comme des terres déjà unies, mais surtout comme des terres de moissons ou de vendanges. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous recommande l'ouvrage à plusieurs titres. Hein. Tout d'abord parce qu'on s'attache à un personnage principal, Joseph, hein, qui nous fait vivre des aventures en tant que soldat de l'empereur. Alors Joseph, hein, c'est un artisan qui vit parfaitement intégré dans une petite communauté villageoise alsacienne, avec des traditions, des repères, etc. Et puis, vous savez, cet ouvrage, j'ai fait sa découverte un peu par hasard, parce qu'en flânant à la Fnac de Strasbourg, je suis tombé dessus et j'avoue que je n'ai jamais regretté le déplacement. Hein. Puis, pour la petite histoire, hein, en deux mots, on le voit ensuite traverser tous les territoires de ce Grand Est, en tirant de fortes descriptions qui sont tout à fait touchantes, et qui montrent vraiment un amour du terroir. Et puis enfin, les deux écrivains vont évoquer des scènes de vie qui font de nos villes et villages bien plus que ce qu'on connaît aujourd'hui, bien plus que ces simples communes dortoirs où on rentre chez soi le soir, mais on connaît pas bien, on connaît le voisin un petit peu, mais sans plus, etc. Voilà. Puis si on voulait citer un autre exemple, hein, de ces villes et de ces villages, de ces vraies communautés qui avaient un vrai vivre ensemble, mais il faut citer l'autre ouvrage qu'on connaît tous, du moins de nom, mais qu'on n'a jamais lu, qui s'appelle L'ami Fritz.
Ah, certes. Ouais. Certes, oui.
Ben voilà, hein, donc, qui raconte l'histoire de Fritz Kobus, un bon bavarois anabaptiste, donc vous imaginez un peu la scène, qui est un célibataire endurci mais heureux. Hein, il apprécie la vie en véritable épicurien, il se réjouit du bien manger, du bien boire, etc. etc. Voilà.
Si on veut être un petit peu précis aujourd'hui dans la chronique, on peut évoquer des lieux.
Ah ben non seulement on peut, mais il faut évoquer des lieux précis. Hein. Alors c'est bien sûr les alentours de Metz, hein, les coteaux, qui produisent un vin agréable, un vin réputé. Alors je vais citer deux cas. Hein. Déjà c'est le cas du petit vallon du village de Vallières à l'époque. Hein. Alors Vallières aujourd'hui vous connaissez sans doute si vous habitez dans les environs de Metz parce que c'est à côté de Saint-Julien-les-Metz, donc à côté du Kinépolis. Hein, tout le monde a son point de repère là, mais Vallières, avant, c'était un vrai petit village qui était autonome et indépendant jusque dans les années 1969-70, je crois. Ou bien encore un deuxième petit vallon avec les alentours de Vaud. Hein. Et je vous parle ici d'une petite partie de ce qu'on appelle le pays messin en termes de vignobles. Alors, pour bien vous donner l'importance de la chose, hein, c'est au 19e siècle, on va parler d'environ 30 à 40 000 hectares. Hein, de vignobles. Aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, plutôt dans les années 1980, si on compare, on est plutôt dans les années 80 à 900 hectares. Hein. Vous voyez, il y a quand même une division, enfin, c'est pas une simple division, quoi, hein, c'est une extermination. Et si la quantité n'est plus là, en revanche, des essais plutôt bien réussis de route du vin se sont développés en Moselle, avec des domaines qui la jalonnent, qui sont très sympathiques. Bon, pour ceux que ça intéresse, hein, je vous invite pour plus d'infos à aller voir le site internet Moselle Tourisme. Alors quittons un peu donc nos tables mosellanes pour aller dans les Vosges. Nos Vosges, si j'ose dire, hein. Et alors permettez-moi vraiment de survoler historiquement et très modestement hein, nos productions et puis autres aspects typiques locaux. Hein. Je voudrais vraiment pas faire figure d'expert là-dessus. Je m'en garderai bien d'ailleurs. Mais c'est tout d'abord ce qu'on appelle, si on parle des vins, hein, les petits crus. Ce sont ces accols à base de fruits divers et variés. Alors vous avez par exemple, à l'instar de la ligne bleue des Vosges, hein, si chère à notre Jules Ferry, eh bien il existe un vin bleu des Vosges qui remonterait a priori à quelques décennies déjà, hein, mais c'est également aussi des vins traditionnels dont on va garder le souvenir encore longtemps, c'est le vin de rhubarbe, de groseille, etc. Et au travers de ces vins, ben, moi ce qui m'intéresse, ce sont vraiment ces souvenirs du temps où nos anciens avaient une patente qui pouvait se transmettre hein, et qui permettait de vraiment produire. On en trouve trace encore aujourd'hui avec les pressoirs et autres cuves qui ont été transformées en souvenirs dans nos jardins, bien sûr, mais qui sont de véritables témoignages de cette époque où le vin faisait partie de l'activité agricole.
Et puis en dernier lieu, on peut quitter les verres un temps pour parler d'un type de restaurant traditionnel.
Voilà, ben revenons un petit peu hein, sur cette Weinstube Brenner qui a offert donc à Colmar, je rappelle, hein, cette Weinstube qui est reconnue au guide Michelin hein, comme table de qualité. Eh bien, le principe de la Weinstube, hein, c'est un principe vraiment très ancien parce que il fut un temps déjà où les vendanges terminées, il y avait un certain nombre de fêtes. Hein. On connaît notamment la fête des moissons et on retrouve cela dans plusieurs religions antiques, notamment dans la religion juive avec une fête qui existe encore aujourd'hui qui est la fête de Shavuot. Bien la Weinstube ou restaurant traditionnel alsacien si vous préférez, on retrouve aussi ça en Allemagne d'ailleurs sous le nom de Weinstube, elle répond à cette idée de rapport étroit entre la vendange d'un côté et puis de l'autre la commercialisation de la production viticole. Alors le prix généralement est très abordable, vous y mangez traditionnel et surtout local, et j'insiste sur le terme local, c'est important ça. Hein. Et en théorie, le lien avec la région viticole, lapsus révélateur, donc le lien avec la région viticole est exclusivement à propos du vin. Et non pas de la bière. En théorie, dans une Weinstube, on ne boit pas de bière. Mais bon. Et donc, des plats typiques, hein, pour ne pas dire historiques, vont défiler sous vos yeux dans les Weinstube. Donc, c'est les tartes à l'oignon, qu'on connaît tous, hein, l'ure de porc en gelée, les salades de Münster et autres mets tout aussi sympathiques. Et d'ailleurs, parenthèse, ce sont des mets qu'on retrouve à la table des Brenner, n'est-ce pas, la Weinstube Brenner à Colmar.
Ton petit dernier, c'est mon petit péché mignon, hein, ce qui est au Münster, bah alors là, dis donc.
Alors là.
Alors, ce que tu nous as cité, c'est vraiment pas anodin. Hein.
Oui, voilà, parce que, comme je vous disais, la Weinstube Brenner, qui est un restaurant de Colmar, qui a une forte assise, nous offre, ou plutôt vous offre un repas pour deux. Hein, et ça a été très fort, donc on félicite encore notre auditrice là-dessus. Je vous ai cité quelques pas de leur carte, où tradition vont se mêler avec des producteurs locaux, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a semblé très sympathique. Quand on leur a proposé de participer, il y avait vraiment cette volonté de mettre en avant les producteurs locaux. locaux et le grand savoir-faire qu'ils utilisent à propos de ça. Ne serait-ce que, je vous donne un exemple, hein, leur café, ils travaillent directement avec un commerçant qui est du secteur, hein, et ça, c'est quand même très fort, quoi. Hein, et vraiment, on remercie cette Vinstube d'avoir participé à ce jeu.
Tout à fait, on les remercie. Merci beaucoup à la Vinstube Brenner de Colmar, et puis éventuellement à notre jeu et notre foi.
Mais n'est-ce pas, voilà.
Bien, je pense que je vais, je vais y aller moi-même.
Hein. Voilà, ben on ira vérifier comment ça se passe. Hein,
on
voilà.
ira voir.
Mais concrètement, non, vraiment, c'est très sympa de leur part. Bon, d'ailleurs, on mettra, je pense, hein, leur site internet
tout
en lien
fait.
Sur la page RCM, voilà. Et on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion. Voilà.
Pour terminer, comme d'habitude, tes petits conseils et lectures sur le sujet.
Voilà, alors je vais faire simple et concis. Je vous conseille deux ouvrages d'Erckmann et Chatrian. Alors, le premier ouvrage, bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un conscrit de 1813 qui m'a beaucoup plu, et je vous rappelle vraiment le principe, c'est de se balader avec le personnage principal dans parfois des villages qui sont les nôtres, hein, qui portent toujours ce nom-là et qui vivent au 19e siècle, et c'est très sympathique. Puis un deuxième ouvrage pour vous dire que Erckmann et Chatrian, c'était pas que l'Alsace ou le Grand Est ou la Moselle ou la Lorraine de manière générale, c'est aussi au travers des contes de la montagne, une évocation des Vosges, une évocation de ces lieux étranges et parfois un peu je vais pas dire maléfique, mais un peu une atmosphère un peu forte, quoi, hein. Et ça, c'est extrêmement fort. Les contes de la montagne, c'est quelque chose à lire. On parle beaucoup de patrimoine traditionnel et patrimoine local, mais ça, je pense que c'est quelque chose de fort.